Et place aux jeunes, donc, sur la Wiki Radio du CNRS. On va parler de ces clubs jeunes sciences et citoyens qui existent depuis maintenant une quinzaine d'années, créés par le CNRS. J'ai quatre jeunes autour de la table qui nous ont rejoints, que je vais vous présenter dans un instant. Et puis des un peu plus vieux, hein, sauf votre respect, Jean-Louis Buscalet, directeur adjoint de la direction de la communication, responsable du pôle Action Jeunes et Événements. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous François Godel, président du club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens de Bobigny-Drancy, président de l'association Sciences Ouvertes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis alors les quatre qui font un petit peu baisser la moyenne d'âge autour de la table, eh bien il y a Déborah, étudiante en première année d'école d'ingénieur à Rouen. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Également avec nous Mélanie, lycéenne en terminale S à Bondy.
Bonjour.
Myriam, lycéenne en classe de première à Saint-Denis.
Bonjour.
Et puis un garçon, Rémi, étudiant, qui vient de terminer sa troisième année. Il était en école d'ingénieur il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Tout à fait, bonjour.
Bonjour Rémi. Alors on va reprendre l'histoire depuis le début, si vous le voulez bien, Jean-Louis Buscalet. Avant que se créent ces clubs pour les jeunes, clubs sciences et citoyens, il y a eu des rencontres qui existent toujours, hein, un rendez-vous annuel. On fêtait le 22e anniversaire de ces rencontres sciences et citoyens. Alors, quelle est l'idée? Comment sont nées ces rencontres?
Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. On va revenir dans l'histoire du CNRS. En 1989, pour le cinquantenaire du CNRS, François Kourelski, directeur général de l'époque, a demandé à Edgar Morin, notre célèbre philosophe, de créer, de monter quelque chose, des rencontres, quelque chose qui permettrait aux jeunes de venir dialoguer et surtout débattre, échanger avec les scientifiques du CNRS. En 1989, donc pour le cinquantenaire, sont nées les premières rencontres qui se sont déroulées dans les salines royales d'Arc et Senans, et qui réunissait à l'époque 100-150 jeunes et à peu près 50 chercheurs. Donc les débats touchaient tous les thèmes de société, les thèmes que l'on retrouve également dans les rencontres lors de la 22e édition qui s'est déroulée à Poitiers, comme vous le rappeliez. Des thèmes reviennent régulièrement, des thèmes qui sont choisis par les jeunes, thèmes science-société que l'on aborde en toute liberté, dans un esprit de convivialité et qui permettent, je dis, à chacun de s'exprimer.
Alors, des exemples, hein, très concrètement, thèmes qu'on peut aborder dans les rencontres jeunes sciences et citoyens.
On peut parler de la liberté avec les nouvelles technologies, sommes-nous toujours des hommes libres? On peut parler de drogue, on peut parler de physique nucléaire, les enjeux énergétiques, tous les thèmes sont abordés et nous respectons, du moins le comité scientifique qui gère les rencontres, souhaite vraiment s'appuyer sur les demandes des jeunes pour leur proposer des thèmes qui leur ressemblent, qui sont d'actualité.
Qui choisit donc ces thèmes exactement?
Les jeunes. C'est les jeunes vraiment qui nous font des propositions chaque année et nous respectons leur choix et nous essayons de trouver, bien sûr, les acteurs scientifiques les plus proches de ces thématiques. Je signale quand même pour rappeler que les thématiques sont abordées dans toute leur interdisciplinarité, ce qui permet aux jeunes de se faire une idée de ce qui se fait au CNRS, mais aussi dans d'autres organismes de recherche.
Et est-ce qu'on note une évolution depuis 22 ans que ces rencontres existent? Est-ce que les préoccupations des jeunes, en tout cas ceux qui participent à vos rencontres, ont changé? Ou est-ce que les thèmes principaux sont les mêmes?
Les préoccupations évoluent, puisque les technologies évoluent, puisque la société évolue, mais on a toujours des grandes thématiques qui reviennent et qui sont toujours les préoccupations de demain. Alors là, nous situons dans le cadre des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc il y a un problème des professions de la recherche, il y a un problème des études, il y a le problème, on le retrouve dans les ateliers. On retrouve toutes ces préoccupations de jeunes, le chômage est un problème. Je ne sais pas, on peut retrouver toutes les thématiques que vous retrouvez dans la presse tous les matins. Donc je vous dis, nous sommes à l'écoute et je dis que les jeunes sont encore plus à l'écoute.
Mmh. Donc les premières rencontres, c'était en 89, hein, c'est ce que vous avez dit. Et quand sont nés de ces rencontres, si j'ai bien compris, clubs qui vont avec?
On va arriver au club parce que je voudrais passer la parole aux jeunes, c'est ce qui me préoccupe le plus. Ces rencontres, les jeunes nous ont dit un jour, les rencontres, c'est super, on vit un moment exceptionnel avec les scientifiques, mais au-delà de ces rencontres, que peut-on faire? Donc, la direction générale du CNRS nous a proposé de trouver les lieux où les jeunes pourraient régulièrement rencontrer les scientifiques. Alors que ce soit dans le cadre du secteur associatif, dans le cadre du secteur, du secteur scolaire, on a essayé de trouver, tous les acteurs potentiels qui voudraient bien jouer le jeu avec nous. Et bon, là, on a un exemple typique cet après-midi du club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens de Bobigny, Drancy. Je ne vais pas l'oublier, qui avec le président ici présent,
François Godel,
on a trouvé un attelage qui marche bien. Et moi, je voudrais maintenant leur laisser la parole.
Alors très bien, voilà. Vous aurez encore le droit de participer un petit peu à la discussion.
Hein,
restez pas loin quand même, Jean-Louis Busquelet. François Godel, vous êtes président du club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens. Déjà depuis combien de temps? Et puis comment avez-vous atterri là?
Alors en fait, j'animais des ateliers de mathématiques pour intéresser mes élèves aux mathématiques et les cultiver. Et puis j'ai participé à une université d'été à Marseille où j'ai rencontré, je ne sais plus son nom, un responsable de la communication du CNRS qui m'a parlé des clubs CNRS Sciences et Citoyens. Et ça m'a donné l'idée.
Juste à côté de vous, c'est ça? C'est Jean-Louis Busquelet?
Non, c'était pas Jean-Louis à l'époque.
D'accord.
C'était Robert Marceau, exactement. D'accord. Et ça m'a donné l'idée, parce que c'est des sujets qui me passionnaient, d'essayer d'en monter un sur mon lycée, qui était le lycée Louise Michel à Bobigny.
Comment vous avez été perçu justement? Alors bon, je veux pas tomber dans le cliché, mais on imagine qu'il y a certaines banlieues plus désinvoltes que d'autres. Alors vous arrivez avec votre idée, on va faire un club jeunes sciences et citoyens. On vous rionnait, on dit c'est une très bonne idée. Comment ça se passe?
Non, parce que de toute façon, un lycée en banlieue, c'est un lycée, et on y fait des choses tout aussi sérieuses qu'ailleurs. En plus, les élèves sont plutôt gentils, je dirais, et susceptibles de bien s'intéresser. Par contre, ils n'ont pas toujours à portée de la main les outils pour satisfaire leur curiosité, ni la même émulation. Alors, ça a été très vite, en fait. Il y avait, d'une part, au sein du lycée, il y avait mes élèves, et puis quelques autres. Et puis, il y avait aussi une maison des jeunes en face de chez moi, où il y avait un atelier de jeux de rôle. Et c'est avec ça qu'on a fabriqué le club. On a été voir des grands scientifiques, et la première année, on leur a demandé « qu'est-ce que c'est pour vous faire de la science ?» On est parti de ça.
Et combien de participants vraiment, est-ce que ça...
Alors ça, c'est intéressant, c'est que la première année, on était 15-20.
Ouais.
Et dès la deuxième année, on est allé à 50 aux rencontres CNRS.
Ah oui, donc le bouche à oreille a fonctionné en fait.
Hein. Oui, et c'est devenu en fait une espèce d'association d'anciens élèves du lycée Louise Michel, parce que les jeunes, ils sont venus une année, puis ils sont revenus pendant 5 ans, 6 ans, quelquefois 10 ans. Et là, le questionnaire qu'on a envoyé pour les assises aux jeunes, j'ai des élèves, des anciens élèves, anciennes élèves qui ont répondu, qui étaient là en 95.
Ouais, parce que vous avez tenu. C'est d'où vient la décision de faire participer ces jeunes aux assises?
Ah, c'est une proposition de Jean-Louis. Puis je crois que les assises, on en a entendu parler, donc beaucoup de gens nous ont dit il y a des choses à dire.
Et ils se sont montrés intéressés par cette consultation des assises, ou parce que ça pouvait aussi paraître quelque chose d'un petit peu institutionnel, distant, lointain pour eux quand même.
Vous avez raison. Enfin, ce que je peux dire, c'est que j'ai envoyé une centaine de questions, une centaine de questionnaires par mail, et j'ai eu 23 réponses, ce que je trouve pas mal, et toutes extrêmement intéressantes. À mon avis.
On va avoir l'occasion d'en parler pendant cette rencontre, effectivement, de ce que vous avez retiré de cette petite consultation que vous avez faite auprès des jeunes pour ces assises. Et on va donner la parole aux jeunes qui nous entourent. Pour le moment, on a dit, il y avait une volonté, on va dire, des institutions de faire réfléchir les jeunes aux questions de science, de citoyenneté. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ces clubs mis en place, club CNRS Jeunes, Sciences et Citoyenneté? Qui veut répondre? C'est Mélanie? Alors allons-y.
Ce qui m'a donné envie, déjà c'est ma prof de maths qui m'en a parlé, qui m'a dit vu l'envie que j'avais de faire des sciences...
Rapprochez-vous du micro, c'est les gestes un peu obscurs que vous fait Jean-Louis, ça veut dire parler près du micro.
Donc ma prof de maths m'a dit de m'inscrire, que ça allait m'intéresser, et effectivement ça m'a intéressée. Et par la suite, j'ai fait d'autres stages et tout aussi intéressants.
Quel est le profil des jeunes que l'on croise dans ces clubs? Est-ce que, en gros, c'est que des premiers de la classe? Est-ce qu'il y a des gens curieux, pas forcément bons dans les différentes matières, mais qui s'investissent quand même là-dedans?
On trouve des premiers de la classe. On trouve aussi des gens qui sont moyens, mais qui aiment les sciences, qui aiment... chercher, justement s'investir dans les sciences, donc on n'est pas obligé d'avoir le profil de premier de la classe pour faire partie de ce genre de club. En fait. Mmh.
Alors on va faire tourner un peu la parole. Déborah, ou je ne sais pas qui veut répondre, C'est vous, je mélange les prénoms, c'est ça ? Myriam. C'est Myriam, pardon, voilà, Myriam. Vous, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a attiré dans ces clubs ?
Tout d'abord, j'ai commencé les stages avec le stage thématique avec François Gaudel, avec l'association des sciences ouvertes.
Ouais. Faites-nous vivre ça, c'est-à-dire quand on s'inscrit à un club, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va interviewer des scientifiques, c'est les scientifiques qui parlent, on les écoute bien sagement, on les bouscule un peu, ça débat, ça discute. Comment vous vivez ça ?
On assiste à plusieurs conférences. On rencontre des professeurs, des chercheurs.
C'est intimidant ? Comment vous percevez ces chercheurs que vous voyez un chercheur, ça vous intimide ou ça vous ouvre juste des tas de perspectives, peut-être professionnelles ? Comment vous voyez ça ? Je sais pas, en fait, je me rends pas compte quand on est jeune. Vous prédestinez à faire de la recherche, vous, par exemple ?
Non.
C'est vraiment de la pure curiosité.
Oui, c'est de la pure curiosité.
D'accord. Et un chercheur, pour vous, c'est quelqu'un comme tout le monde ou c'est quelqu'un d'un petit peu étonnant, d'un milieu lointain ?
Comment non, pour moi, c'est quelqu'un de grand et qui a beaucoup de curiosité et qui travaille beaucoup.
D'accord. Déborah, racontez-nous un peu comment vous vivez ça. Est-ce que vous aussi, c'est par pure curiosité ou est-ce que vous voulez faire de la recherche plus tard ?
C'est aussi par pure curiosité. J'estime que je ne suis pas assez forte pour faire de la recherche. Je suis vraiment impressionnée par les chercheurs.
Pourtant, normalement, quand on les voit de près, on se rend compte qu'ils sont quand même relativement normaux,
oui,
ces chercheurs.
Oui, par rapport à ça, j'ai réalisé qu'effectivement, ils étaient tout à fait normaux. Mais il y a quelque chose, je pense, qui les prédestine, enfin, en tout cas pour les meilleurs, en tout cas ceux qui sont bons quoi, dans ce domaine-là, à la recherche. Vraiment une passion chez eux, puisque j'ai pu rencontrer certains chercheurs grâce aux associations de vulgarisation scientifique auxquelles j'appartiens, comme par exemple Sciences Ouvertes. Et oui, je me suis rendu compte que ça leur venait même déjà dès l'enfance, toujours pourquoi ceci, pourquoi cela, ils essayent de comprendre. Après, le lycée, les études supérieures, et ils continuent toujours. Et voilà.
L'une des rencontres qui vous a le plus marqué, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais parmi les différentes visites, conférences ou ateliers auxquels vous avez pu participer, est-ce que vous, si vous deviez en retenir une, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué en particulier ?
Je vais penser à la première fois que j'ai participé aux rencontres.
Ouais.
J'ai dû faire un compte rendu le lendemain puisque ça se passe comme ça, les volontaires des rencontres peuvent faire un compte rendu.
Donc ça c'était
sur les
à
énergies
Poitiers.
Renouvelables. Ouais. Ah oui, à Poitiers. Mm-hmm. Sur les énergies renouvelables, je suis allée à cette conférence un peu pas en tremblant mais en me disant on en parle des énergies renouvelables mais je vois pas concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi il y a de la recherche dessus. Ouais. Je me posais beaucoup de questions et quand ils ont demandé qui voulait rapporter et qu'ils demandaient en plus une fille.
Mmh. Ah bon, ça faisait partie du cahier des charges, il fallait que ce soit une rapporteuse.
Non, pas forcément. En fait, il y avait déjà deux garçons qui s'étaient désignés et ils auraient aimé qu'une fille aussi le fasse. Et moi, je suis un peu dans ces histoires-là de parité,
quand on réfléchit à la citoyenneté, évidemment.
Oui, je me suis dit j'étais qu'au lycée à l'époque en terminale et j'avais des doutes, mais je me suis lancé ce défi. Je me suis dit, allez, je vais rapporter. Ils vont m'aider de toute façon. Il y avait un chercheur du CNRS, un autre homme qui faisait la médiation scientifique, j'ai appris beaucoup de choses et cette première participation aux rencontres CNRS Jeunes Sciences et Citoyens était vraiment très formatrice pour moi parce que justement, ils m'ont parlé de leur parcours scolaire et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément rectilignes en fait.
C'est-à-dire qu'un chercheur, ça cherche aussi sa voie, hein, c'est ça que
oui,
vous voulez
voilà,
dire.
Oui, voilà, c'est ça aussi que je veux dire. Par exemple, le chercheur du CNRS, il m'a expliqué que lui, toutes ses études, il les a fait à l'université. Alors qu'à l'époque, pour moi, la voie royale, c'était la classe préparatoire, enfin, point barre, ou un peu ça, quoi. Et non, lui, au contraire, il me disait, mes études, non, c'était à la cool, à la douce. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Et celui qui faisait de la médiation scientifique, lui, il s'est, enfin, pas trompé, mais il a pris plusieurs voies avant d'arriver à la médiation scientifique. Donc voilà, j'étais rassurée.
D'accord. Rémi, on vous a pas encore entendu, donc je le disais, étudiant. Enfin, vous n'êtes plus étudiant depuis peu, hein, vous venez de quitter l'école d'ingénieur. Là, vous travaillez déjà ? Vous avez déjà trouvé du travail ? Dans quelle branche, si c'est pas indiscret ?
La R&D, recherche et développement.
D'accord. Donc vous, de la recherche, vous en faites. Est-ce que c'est suite justement à cette participation au club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens que vous avez pris goût, que ça a confirmé votre intérêt pour la science et la recherche ?
Confirmé, oui. Confirmé parce que dans l'ensemble, il y a beaucoup de voies quand on est en école d'ingénieur. Il y a beaucoup de formations différentes, d'options différentes. Et le fait de s'intéresser à la recherche, à la science et à toutes ces questions-là, encourage, on va dire, à poursuivre dans cette voie et à essayer de trouver des métiers qui y correspondent. Et sur ce sujet-là, c'est...
Non, je faisais juste un geste parce que vous triturez la prise du micro et ça fait un petit peu...
Et sur ce sujet-là, c'est assez facile, en tout cas en informatique, d'arriver à trouver de l'emploi aussi bien en entreprise qu'en université, qu'en institut de recherche ou même ailleurs qu'en France. Donc les activités associatives vraiment alimentent cette curiosité, alimentent cette passion.
Et ce dont on se rend compte en vous écoutant, c'est que ces rencontres sciences et citoyens portent bien leur nom parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de science, mais bien de citoyenneté. Quand on sent que ça débat, ça discute, il y a des prises de parole, un peu des prises de risque publiquement, faut se jeter à l'eau, un peu prendre part à la vie de la cité. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi. C'est vraiment un grand forum citoyen.
Oui. Enfin, de manière générale, on discute avec les chercheurs d'égal à égal, c'est-à-dire que eux, ce qui m'a toujours frappé quand je rencontrais des chercheurs et même de grands chercheurs, enfin j'ai rencontré des médailles Fields et des prix Nobel, et ce qui me frappe à chaque fois, c'est à quel point ils sont humbles, à quel point ils ne se prennent absolument pas pour des dieux, mais simplement pour des hommes qui font un métier qui les intéresse et qui les passionne. Et quand il nous parlait, il vraiment nous posait des questions. Ils étaient véritablement intéressés par nos réponses et ils nous considéraient absolument pas comme des êtres mineurs et sans intérêt.
Alors pendant que nous parlons, apparemment, les auditeurs aussi vous considèrent pas comme des êtres sans intérêt puisqu'ils vous posent des questions. Alors je ne sais pas qui veut répondre à cette question de Marc. Sciences et citoyens, ça complète le lycée et la fac ou ça s'oppose ? Alors. Est-ce que vous voyez ça comme un complément ou un substitut de ce que devrait faire l'école et ne fait pas ces clubs comment vous les situez ? C'est un plus ? C'est ce que devrait être l'école ?
Non, moi je considère ça comme un plus qui nous apporte des choses qu'on ne voit pas en cours, donc qui nous permettent de compléter les connaissances justement qu'on voit durant les cours. Et moi je considère que ça nous permet d'avancer plus... d'aller plus loin dans ce qu'on fait en cours, justement, donc d'approfondir. Et oui, c'est un plus.
Est-ce que parmi, je m'adresse à vous tous, hein, vous prenez la parole quand vous avez envie de le faire, est-ce qu'il vous arrivait de vous dire, mais grâce justement aux chercheurs que vous avez rencontrés dans ce cadre-là, on nous a pas tout dit à l'école, on nous a présenté la science comme quelque chose de peut-être un peu trop monolithique, sérieux, comme quelque chose d'établi. Or, derrière, y a des aventures humaines, il y a des gens qui se trompent, qui cherchent. Est-ce que vous avez l'impression d'un sérieux complément ?
Les associations en dehors de intrascolaires sont beaucoup plus intéressantes parce que c'est pas dans un cadre scolaire. Strict, alors que quand on est à l'école, on a l'impression qu'on est là pour apprendre, pour avoir des bonnes notes, pour plaire aux profs. Et alors que dans les associations, on est là pour rire, pour s'amuser, pour apprendre et pour prendre connaissance sur des choses extérieures.
Donc ça se complète, c'est-à-dire que c'est un rôle que l'école ne pourrait pas prendre parce qu'effectivement il y a un certain cadre à suivre. Autre question qui nous arrive de Marie, place aux jeunes, hein, j'ai dû employer l'expression tout à l'heure, mais les jeunes ont-ils leur place dans les débats scientifiques ? Alors déjà, je vais demander aux jeunes autour de la table s'ils ont l'impression d'avoir leur place, puis je demanderai aux plus âgés, sauf votre respect, s'ils trouvent qu'effectivement on leur fait assez de place aux jeunes. Alors vous, est-ce que vous trouvez que vous avez votre place dans les débats scientifiques aujourd'hui ?
Moi, je dirais ça dépend lesquels. C'est-à-dire que effectivement, si on parle de sujets scientifiques extrêmement pointus où seules 4 personnes dans le monde sont capables de comprendre la problématique, non, effectivement, les jeunes n'ont absolument pas leur place à l'évidence. Maintenant, est-ce que les jeunes ont leur place dans des débats citoyens et les liens entre les citoyens et la science? Oui, tout à fait. La science de demain, elle va se faire avec les jeunes. Elle va pas se faire avec les vieux. Les vieux, ils vont atteindre leur retraite à un moment ou à un autre. Il est évident que si on n'intéresse pas les jeunes à la science, elle va pas se faire toute seule. Elle va pas se renouveler toute seule. Elle va pas se.
Mais alors, effectivement, ça paraît effectivement logique de faire de la place aux jeunes. Mais est-ce que cette place est faite? En gros, est-ce que on entend souvent? Alors, est-ce que c'est un lieu commun de dire que il y a une désaffection des jeunes pour les disciplines scientifiques? Est-ce que vous avez l'impression que l'université, les laboratoires, est-ce que c'est pas beaucoup de voies sans issue quand on commence alors vous c'est des écoles d'ingénieurs, enfin une école d'ingénieur que vous avez faite, mais quand on va à la fac, quand on part pour 5 années puis une thèse et on n'est pas sûr d'avoir un métier au bout, est-ce que tout ça, ça donne envie de se lancer dans la recherche?
Alors, je dirais que ça dépend encore une fois de laquelle. Effectivement, il y a toutes les filières scientifiques sont différentes. Il est clair que pour un informaticien, un physicien, un mathématicien, il sera beaucoup plus facile de trouver un job dans l'industrie que si on fait, je sais pas, une thèse en biologie appliquée extrêmement pointue où il y a que 2 laboratoires dans le monde qui s'y intéressent. Il est clair que après toutes les filières ont leurs spécificités. Cependant, il me semble clair également que les méthodes de travail que l'on y apprend, l'ouverture d'esprit qu'on y acquiert, forment véritablement à la fois de bons citoyens, de bons scientifiques, de bons ingénieurs, de bons techniciens et des gens qui ont une certaine plasticité au niveau de leur esprit et de leurs compétences qui sont toujours bienvenus aussi bien en académie qu'en entreprise.
Déborah, on fait assez de place aux jeunes aujourd'hui en France dans la recherche ?
En fait, excusez-moi, je voulais rebondir.
Ah ben alors, rebondissez, Déborah, je vous laisse rebondir.
Sur ce qu'il avait sur la question de manière générale, en fait, en disant que oui, les jeunes peuvent avoir leur place dans le débat scientifique et autres, étant donné qu'ils apportent un regard assez neuf, assez nouveau, et que dans les sciences, dans l'histoire des sciences, on a bien vu que certains scientifiques ont fait leur grande découverte alors qu'ils étaient jeunes. On les présente souvent âgés sur les photos. Je pense par exemple à Albert Einstein, mais voilà quoi, il avait la vingtaine et tout ça quand il a présenté ses théories de la relativité.
Oui, c'est une bonne remarque, effectivement. On ferait bien de prendre les cerveaux quand ils sont encore relativement frais. François Godel, vous, sur cette question, les jeunes ont-ils leur place dans les débats scientifiques? Vous, si vous vous êtes impliqué, c'est parce que vous trouviez qu'on ne faisait pas assez de place aux jeunes, justement?
Sans doute.
Je sais pas, vous me dites ce que vous voulez.
Oui, sans doute. Non, je me suis impliqué parce que je voulais surtout faire partager certaines passions pour les sciences. Et puis, la problématique, et en travaillant avec les jeunes, on arrive à approfondir les problématiques. C'est pas vrai qu'en travaillant avec des jeunes qui ont peut-être moins de connaissances, on va rester à un niveau superficiel, c'est pas vrai du tout. Parce que les débats ont lieu. Et dans les débats, ben, on est obligé de réfléchir, d'approfondir sa propre réflexion. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup appris en participant au débat avec les jeunes. J'ai beaucoup appris des chercheurs, mais j'ai aussi beaucoup appris des jeunes.
Alors, des jeunes qui ont participé au débat, eh bien, il y en avait aux dernières rencontres sciences et citoyens qui se tenaient à Poitiers. Un micro s'est promené parmi eux. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs réflexions. C'était il y a un mois.
J'aimerais, moi qui suis en terminale S, partir dans une étude d'ingénieur biologique pour ensuite me spécialiser dans l'environnemental. À travers ça, j'aimerais pouvoir parler aux autres et faire un peu comme de la médiation sur l'environnement, l'écologie surtout, parler des progrès, des techniques. Donc pour ça, je sais qu'il me faut un bagage scientifique assez important, donc des connaissances et j'aspire à de grandes études si c'est possible et si ça m'intéresse toujours dans ce que je veux faire. Puis ensuite, si je peux vulgariser mes connaissances, en parler aux jeunes, aux plus jeunes, faire des conférences et pour plus tard, ça m'aiderait. J'aimerais ça.
J'ai opté pour une filière scientifique en université en biologie parce que tout d'abord, la biologie, c'est ce qui m'intéresse. C'est aussi le fait que je veux faire de la recherche en biologie, le fait que tout ce domaine global m'intéresse. Donc j'ai choisi pour faire de la recherche et pour avoir le métier de mes rêves, si je puis dire, c'est-à-dire généticien.
J'ai pas voulu intégrer une faculté puisque en faculté on se retrouve dans des énormes classes où les professeurs ne connaissent pas leurs élèves. Et pour moi, ça me semble vraiment problématique parce que justement, si on n'est pas, on va dire, un peu encadré, un peu soutenu, on est vite débordé et on se laisse vite pousser par ne rien faire. Exactement, voilà, c'est qu'on ne travaille plus après. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer un BTS puisque les professeurs sont quand même avec nous. S'il y a un petit truc qu'on ne comprend pas, on peut vite fait lui lever la main, lui demander qu'il vienne nous voir pour nous réexpliquer. Dans un amphithéâtre, ça n'aurait pas été possible. Ça n'a vraiment pas été possible. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré, c'est pour moi l'université de demain, ce serait vraiment ça.
Donc pour moi la réussite de tous les étudiants, donc déjà bon, c'est d'abord, ça, on peut considérer que c'est l'obtention du diplôme en tant que tel, mais c'est aussi la possibilité d'avoir une formation de qualité et donc de pouvoir être suivi tout au long du cursus universitaire, en licence, en master, en doctorat et en premier surtout en licence.
Bah, pour moi la réussite c'est le travail, la rigueur, c'est pouvoir acquérir des connaissances et pouvoir faire ce qu'on veut plus tard parce que justement on aura acquis beaucoup de connaissances, on aura travaillé pour être heureux dans ce qu'on fait et pour, ouais, voilà, c'est ma définition de la réussite.
La réussite de tous les étudiants pour moi ce serait que chacun puisse faire ce qu'il veut. Non pas le job le mieux payé, ni ce qui rapporte le plus, mais vraiment qu'on puisse concrétiser avec nos passions. Ce qu'on voudrait, ce qu'on imagine en tant que tel, même si ce sont des rêves, qu'on puisse les réaliser et qu'on puisse, à travers les études, faire un peu ce dont on aspire.
La réussite de tous les étudiants, pour moi, c'est surtout... en fait qu'ils arrivent à atteindre leur but, leur objectif final, c'est-à-dire surtout trouver la voie et surtout trouver le moyen de parvenir à leur fin, c'est-à-dire surtout d'avoir le métier qu'ils cherchent à avoir. Et souvent quand on est à l'université par exemple, on change souvent de voie et c'est ce fait de changer de voie, de trouver sa voie, de se dire tiens c'est pas ci, c'est pas ça, et d'aller à cet endroit-là, d'aller à l'université. Et donc réussir en tant qu'étudiant, c'est réussir à trouver sa voie, c'est réussir à avoir le métier qu'on veut avoir en étant étudiant.
Voilà donc pour les témoignages de ces jeunes recueillis lors des dernières rencontres Sciences et Citoyens qui se tenaient à Poitiers à la fin du mois dernier. Je vais m'adresser aux jeunes qu'on a autour de la table, Mélanie, aux deux plus jeunes, hein, les lycéennes. Mélanie, donc je rappelle que vous êtes lycéenne en terminale S à Bondy. Vous avez l'impression, alors c'est une question encore qui nous arrive sur Internet, est-ce qu'on vous a parlé des métiers de la recherche au moment de vos choix d'orientation? Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment informé?
Non, on ne nous parle pas vraiment des métiers de la recherche quand on fait nos choix d'orientation. On nous parle plutôt de ce qui arrive juste après le bac, donc soit l'université ou les prépas. Mais après l'université, enfin si on après les deux années post-bac, je vais dire, on nous parle pas vraiment de la recherche ou de ce qui peut se passer après. Si on veut parler de ce qui peut se passer après, faut plutôt aller prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation qui va plus nous dire en détail. Mais les profs, lors du choix, ne nous expliquent pas vraiment la recherche, en fait.
Mmh. Myriam, même constat de votre côté. Donc vous êtes en classe de première à Saint-Denis.
Non, dans mon cas, ce sont plutôt mes... Enfin, je suis en première S, sciences de l'ingénieur. Donc mes deux profs de sciences ingénieurs, ils nous voient plutôt tous dans une prépa d'ingénieurs. Et ils ne nous parlent pas de recherche. Ils nous voient tous... Pour eux, on est tous des futurs ingénieurs dans des domaines précis.
Vous vous voyez aussi comme ingénieur, du coup, vous êtes.
J'espère bien.
Oui, du coup, vous êtes rentré dans le moule qu'on vous a prévu, hein, finalement. Oui. Vous n'êtes pas pas rebelle sur ce coup-là. François Godel, président du club CNRS Jeunes Sciences et Citoyens. On le disait en commençant cette émission, vous avez envoyé un questionnaire à une centaine des jeunes qui participent régulièrement aux rencontres que vous organisez dans ces clubs pour les faire participer à leur manière à ces assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez reçu, m'avez-vous dit, 23 réponses ?
23 réponses, oui.
Voilà. Quel genre de questions, déjà, avez-vous posé à ces jeunes ?
Alors, j'ai posé des questions sur qu'est-ce que c'était pour eux la recherche scientifique, comment ils en avaient entendu parler, et puis des questions sur l'enseignement qu'ils recevaient, en quoi ils les préparaient ou ils ne les préparaient pas à l'enseignement supérieur et éventuellement à la recherche scientifique s'ils étaient intéressés. Et en particulier des questions portant sur l'égalité des chances à cet égard. Mmh. Puisque les jeunes auxquels je m'adresse avec mon association, ce sont essentiellement des jeunes issus de zones défavorisées de la banlieue parisienne et donc défavorisées par le territoire, clairement. Avec pas la même émulation sur place dans les établissements scolaires, avec... un substrat culturel, par exemple, plus éloigné que quand on habite à côté d'Orsay ou dans la vallée de Chevreuse. Mmh.
Donc, en fait, vous avez ciblé ces questions parce que vous pensiez que c'était des questions qui correspondaient bien aux interrogations et peut-être aux problèmes concrets qu'ils rencontraient. Quelle réponse avez-vous eu à ces questions?
Oui. Alors, je précise, ces questions, c'est des questions qu'on a posées, en fait, en 2005, dans le club CNRS, lorsqu'il y a eu les événements de Clichy-sous-Bois, dont tout le monde se souvient.
Ouais.
Il y a eu des incendies un petit peu partout en Seine-Saint-Denis, qui est le département dans lequel on se trouve. On a réuni le club et on a réfléchi à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le sentiment d'enfermement qui est très présent parmi les jeunes, et pour lesquels certains disaient, bon, ben, finalement, il n'y a qu'à se prendre en main, et puis on peut y arriver pareil que les autres, ce qui est vrai, de toute façon. Puis d'autres qui disaient, non, mais il y a quand même une inégalité pour laquelle il faut faire quelque chose. Et l'idée qu'on a eue, c'est qu'il fallait au moins encourager ceux qui, sur place, veulent aller vers des études scientifiques pour aussi qu'ils entraînent les autres. Mmh. Et donc, on est parti de là. Et ce questionnaire, je l'ai fait un petit peu dans le même esprit pour voir quelles étaient leurs réactions. Et ce qui est frappant, c'est que sur 23 questionnaires, il y en a 22 qui font état de ce déséquilibre territorial, du fait que selon l'endroit où on habite, on n'a pas, indépendamment de même des questions culturelles, familiales et autres, qui existent aussi, bien sûr, eh bien, on n'a pas... les mêmes chances d'arriver, c'est pas du tout la même chose, chacun sait selon le lycée dans lequel on est.
Alors il s'agissait d'un constat où certains proposaient des solutions justement pour remédier à
alors
à
j'ai
ça.
J'ai dans le questionnaire que j'ai envoyé, je l'ai un petit peu orienté, donc je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des solutions extrascolaires, alors des activités extrascolaires, parmi lesquelles les activités type club CNRS, mais aussi des ateliers, des stages dont ils ont parlé tout à l'heure, où ils rencontrent aussi beaucoup de scientifiques et où on les fait, eux, chercher sur des problèmes. Et c'est des stages qui peuvent durer 5 jours de suite, voire 10 jours de suite. Mmh.
Parlez bien devant votre micro.
Des stages qui peuvent durer jusqu'à 10 jours de suite, avec toute la journée, avec des activités donc très variées. Voilà. Et bon, bah, évidemment, ils trouvent ça très bien. C'est pas très étonnant.
Oui. Mais alors, est-ce que c'est la solution? Est-ce que vraiment ça réglerait le problème des inégalités?
Alors, je profite que j'ai le micro.
Bah, allez-y, bien sûr.
Donc, je pense que la solution, oui, à titre individuel, ça aide. Mais la solution par rapport au problème qui a été soulevé en 2005, une des solutions, en tout cas importantes, c'est de créer des pôles visibles sur place qui leur fassent comprendre que sur place, ils peuvent être épaulés. Et ça coûterait pas cher. Parce que c'est le prix d'une école primaire.
Ces pôles visibles sur place pour qu'ils se sentent épaulés, qu'est-ce que ça voudrait dire?
À l'heure actuelle, sur l'université Paris 13, qui est l'université de la Seine-Saint-Denis, on a ce qu'on appelle un tutorat qui se déroule tous les samedis après-midi et qui accueille 200 jeunes. On a commencé en prenant des élèves qui étaient dans le supérieur, justement, parce qu'ils avaient des difficultés, et on les accueille avec des doctorants. Ça commence effectivement à être bien connu. Et puis, on fait des conférences, on les emmène à Poitiers, pour les rencontres CNRS, Jeunes Sciences et Citoyens. On fait des stages. Là, on vient de faire un stage sur Turing qui a duré une semaine. avec une trentaine de jeunes, pas seulement de Seine-Saint-Denis, mais de plusieurs endroits. Donc voilà, ça touche, tout ça, ça commence à toucher du monde, mais il faut le faire voir et il faut lui donner une structure pérenne. Moyennant quoi, peut-être l'image qu'ils ont de ce qu'on peut faire sur place peut changer, et ça peut jouer un rôle très positif à mon avis.
Alors retour, je m'adresse de nouveau aux jeunes qui sont autour de la table, la Déborah, Mélanie, Myriam et Rémi. Est-ce que vous avez participé personnellement à cette consultation concernant les assises? Est-ce que vous vous êtes senti suffisamment concerné pour répondre? Y a-t-il quelqu'un qui se dénonce dans la salle? Personne n'a répondu? Ah, ben, je sais pas.
Le questionnaire que je fais.
Ah, Rémi.
Moi, j'ai reçu le questionnaire dans ma boîte mail.
Si je peux me permettre, j'ai l'impression que du coup, vous y avez répondu sans bien comprendre que c'était dans le cadre des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ça a dû être marqué dans l'introduction, mais comme j'ai l'habitude de lire mes mails un peu en diagonale, j'ai été directement aux questions, j'y ai répondu rapidement.
Sans savoir pourquoi.
Je m'étais dit de toute façon, peu importe le contexte, c'est-à-dire la question de toute façon est clairement posée, clairement définie, donc peu importe le contexte dans lequel ça se situe, autant répondre honnêtement. Et j'y ai répondu, et apparemment ma réponse a été appréciée par François.
C'est quand même intéressant parce que ça montre, vous voyez, que c'est presque par confiance par rapport à vous. Ils savent que vous les emmenez dans un endroit intéressant, mais ils savent pas forcément exactement pourquoi ils répondent à vos mails.
Je fais pas une généralité de cas. Entendons-nous bien.
Mais Mélanie, est-ce que vous avez répondu à ce questionnaire?
Non, j'y ai pas répondu parce que je l'ai vu un soir où j'étais pressée, je l'ai mis de côté, je me suis fait, je répondrai plus tard, et j'ai pas vraiment eu le temps d'y répondre.
Bon, ça va. Vous êtes pas obligé de me donner des excuses, j'avais piscine, je pouvais pas, vous avez pas envie de répondre.
En plus, c'est vrai, j'avais piscine.
Vous voyez, je vous connais par cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre a répondu à ce questionnaire? Est-ce que vous avez une image? Alors, on va aller de plus en plus large, mais déjà, ces assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, est-ce que ça vous dit quelque chose, ou est-ce que là, je vous parle complètement une autre langue, on est sur une autre planète?
Non, moi, ça me dit rien du tout.
Moi, j'en ai entendu parler en allant aux 22e rencontres CNRS, là. Mais sinon, oui, pas un peu la même chose.
Alors, je vais élargir ma question. Est-ce que vous avez une image du CNRS précise? Même si on est dans le hall d'accueil du siège du CNRS, si ce qui vous vient à l'esprit, c'est des termes un petit peu, je sais pas, poussiéreux, vous avez le droit de le dire, hein. On est en direct, ils pourront pas couper de toute façon, alors allez-y.
Non, moi je voulais dire un cours d'histoire-géographie où on m'a dit qu'après la guerre, on a créé le CNRS justement pour redorer le blason de la France, enfin faire vraiment que la France puisse avoir un grand centre de recherche. Après, voilà, pour moi non, au contraire, CNRS, dans le milieu scientifique, c'est au contraire prestigieux.
Une référence.
Ouais, une référence.
Qui se lance aussi sur ce que ça vous évoque, le CNRS?
Moi, ça m'évoque une grande école où je sais pas vraiment si c'est une école ou si c'est une entreprise ou je sais pas, mais
c'est un organisme public de recherche. Mais on s'y forme aussi, en quelque sorte. Hein. On peut aussi considérer que c'est une école. Mélanie,
Pour moi, le CNRS, c'est un ensemble de chercheurs. Quand on me dit CNRS, moi, je pense recherche.
Voilà. J'ai une autre question qui arrive sur Internet. Alors, il y a trois filles autour de la table et un garçon parmi les jeunes. On dit que les filles s'auto-éliminent pour les matières scientifiques. Est-ce que vous avez ce sentiment déjà pour vous-même et puis peut-être pour vos camarades qu'effectivement, les matières scientifiques, on a tendance à considérer que c'est plus un truc de garçon? Les filles. Mélanie.
Moi, je ressens pas ça dans mon établissement, mais quand on regarde après le post-bac, on remarque vraiment qu'il y a plus de garçons dans les filières scientifiques que de filles.
Mais alors, ça vous étonne? Comment vous expliquez ça?
J'explique pas vraiment ça, mais peut-être que les filles pensent qu'elles peuvent pas vraiment aller dans la recherche. Ou je sais pas.
Déborah? La place des femmes dans la recherche, ça vous évoque quelque chose ?
Moi, au contraire, enfin pas au contraire, j'ai l'impression que les femmes s'orientent plus en biologie. Parce que quand on dit matière scientifique, voilà, la biologie, ça reste quand même une matière scientifique.
Ah bah bien sûr. Ouais.
Après, je me dis, peut-être il faut laisser le temps, autant de faire faire ces choses, parce que, enfin, c'est ma théorie personnelle, qu'on a autorisé les femmes en fait à s'intéresser aux sciences autant que les hommes depuis peu de temps, et peut-être c'est pour ça que elles ont un peu plus peur, enfin aujourd'hui petit à petit elles prennent confiance en elles pour s'autoriser aussi à faire des études scientifiques, mais que voilà, pour l'instant il y a encore un lourd passé, si je peux dire, derrière nous.
Oui. Rémi, sur cette question de la parité, après tout, la parité, les garçons aussi ont le droit de s'exprimer ?
Bah, en ce qui me concerne, j'ai un avis assez proche, enfin sur certains points. Déjà, ouais, en sciences, bah en biologie, à l'évidence, c'est blindé de filles. en sciences humaines, c'est blindé de filles aussi.
En maths, c'est moins vrai en maths et en physique.
Ouais, non, en maths, j'ai fait maths sup, maths spé, je peux vous garantir que c'est pas vrai. On est très loin du blindage.
Et on sent le regret.
Regret, je sais pas, mais en tout cas. Ça se remarque. Les garçons le remarquent, les professeurs le remarquent, et l'ambiance de la classe, enfin, est différente à l'évidence. En école d'ingénieur, enfin, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et en maths appliquées, donc le constat est relativement identique. Après, pourquoi il y a aussi peu de filles dans ces matières-là ? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse toute faite, mais les filles savent trouver les matières scientifiques comme la biologie ou les sciences humaines, donc peut-être que c'est un manque d'intérêt vis-à-vis des maths, un manque d'intérêt vis-à-vis de la physique, peut-être un intérêt qui est pas suffisamment suscité, peut-être qu'elles n'y ont pas vraiment intérêt, peut-être qu'elles ont, je sais pas, mais en tout cas c'est une tendance qui a tendance à s'annuler, puisque enfin dans mon école je remarque qu'il y a une augmentation, enfin modeste, mais il y a une augmentation. On n'est plus à 12%, on est peut-être à 16%. Bon, il faut toujours un premier pas, mais en tout cas il y a pas d'attentat contre les filles dans notre école, bien au contraire. Il y a pas de censure parce que ce sont des filles, les femmes qui étaient dans ma filière ont toujours été libres de s'exprimer et avaient les mêmes droits, les mêmes soucis, les mêmes difficultés que les garçons. Les garçons sont absolument pas une majorité patriarcale, agressive et hostile envers les femmes. C'est complètement faux. Non, on morfle autant en prépa, garçons, filles.
C'est peut-être plus subtil que ça, et c'est peut-être avant la prépa que ça se joue, hein, ce genre de discrimination. Déborah?
Peut-être, en tout cas, je continue de penser que ça va venir, que les filles vont s'installer petit à petit. Je pense à certaines professions comme le droit, ou bien en restant dans la biologie, médecine et tout ça, où il y a une centaine d'années, les femmes n'exerçaient pas et voilà quoi, elles sont arrivées. Mais on n'a peut-être pas assez de recul encore aujourd'hui pour établir un bilan et dire non, catégoriquement, les filles sont pas intéressées par les mathématiques et la physique.
François Godel, est-ce que ça fait partie des thèmes que, parmi le questionnaire que vous leur avez remis pour les assises, est-ce que c'est un des thèmes qui était abordé, la parité ?
Je crois que j'ai oublié, mais il faut dire que j'ai trois sœurs et j'en ai deux qui sont profs de maths et une qui est informaticienne.
Donc, pour vous, la question ne se pose plus, c'est déjà.
Mais c'est un vrai problème, effectivement. Alors, ce que je constate, c'est que quand on organise des activités, des stages, y compris sur les maths, sur la physique, qui sont quand même des secteurs un peu désertés par les filles, on a des filles, clairement. Quand on fait nos stages d'été à la fin de la seconde, on a une majorité écrasante de filles, 2/3. On en vient presque à garder quelques garçons pour faire nombre.
Comme par aujourd'hui.
Contre, après, ça changerait sur les orientations. Donc on sait qu'il y en a plein parmi les filles qui veulent faire médecine.
D'accord. Alors, pour revenir plus généralement à ces contributions que vous leur avez demandées, qu'est-ce que vous allez en faire ? Voilà, vous avez reçu une bonne vingtaine de questionnaires, vous avez dépouillé ça. À qui vous le remettez et à quoi ça va servir ?
Alors, je l'ai remis à Jean-Louis Busquelet.
Vous voulez qu'il nous dise qu'est-ce qu'il va en faire, Jean-Louis ? Alors, expliquez-nous
ce que... Ça y est, dès que nous avons reçu toutes les contributions provenant des clubs... puisque plusieurs clubs ont été impliqués dans cette démarche, bah, nous les avons transmises directement, ces contributions, au ministère de la Recherche pour qu'ils les dépouillent et qu'ils en tirent des conclusions. Mmh.
Vous-même, vous avez juste servi de boîte aux lettres sur ce coup-là ou vous avez pris le temps de les lire? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu comme une synthèse au débeauté de ces contributions des jeunes?
C'est-à-dire qu'il est très dur de faire une synthèse puisqu'on avait beaucoup de questions et beaucoup de réponses, je dirais, puisque les réponses étaient très riches. Les jeunes proposaient des solutions pour que l'enseignement soit, alors on va dire, qu'on transforme un peu cet enseignement traditionnel, je dirais, essayons de trouver de nouvelles pistes pour intéresser le plus de jeunes et rendre cet enseignement plus vivant. Je sais que pour avoir discuté avec certains chercheurs remettaient en cause l'enseignement de leur discipline aussi. Donc peut-être, il faudrait peut-être demander à ces jeunes qui ont répondu et qui sont présents aujourd'hui, quelles étaient les pistes qu'ils souhaiteraient voir développer quant à l'enseignement d'une discipline, quelle qu'elle soit. Mmh. Je pense que ça sera intéressant de voir un peu que se servir des nouvelles technologies. On avait plein de solutions et je trouve que la passerelle dont parlait François Godel tout à l'heure, c'est les jeunes doctorants qui viennent aider les jeunes à préparer les classes prépa, je pense que c'était une des pistes qui serait peut-être à développer.
Alors on va justement aborder cette question de l'université de demain et d'ailleurs à ce sujet nous allons écouter un deuxième extrait des réflexions enregistrées lors des dernières rencontres sciences et citoyens qui se tenaient à Poitiers sur le thème donc toujours de la recherche et l'université de demain.
La recherche devrait servir pour moi améliorer l'homme et son environnement, les conditions de la planète, pouvoir améliorer ce qui nous entoure, qu'on puisse vivre dans un meilleur environnement et que ça soit qu'au service de l'homme et pas à son désavantage.
Pour moi, la recherche, elle devrait servir surtout à aider les citoyens. Elle devrait surtout permettre l'avancée technologique. Pour moi, ça serait un peu, peu importe le prix, enfin, ce qui est très important dans la recherche, c'est surtout d'avoir une avancée technologique importante et surtout de pouvoir faire en sorte de tous vivre dans un monde où la technologie pourrait être accessible à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'université de demain, en fait, parce que l'université d'aujourd'hui, je la trouve conforme à ce que j'attends. Il y a des professeurs qui m'enseignent ce que je dois apprendre. C'est des enseignants-chercheurs, des fois. Et c'est assez satisfaisant de pouvoir avoir des discussions avec eux lorsqu'on cherche à faire chercheur, par exemple. C'est aussi satisfaisant lorsqu'on cherche à devenir enseignant et ils ont beaucoup de répondants pour les matières puisque c'est souvent ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils font dans leur métier, en général. Donc pour moi, l'université de demain, c'est aussi l'université d'aujourd'hui. C'est ce qui correspond le mieux à mes attentes pour l'instant.
Je suis d'origine congolaise, donc je viens de la République du Congo et j'ai bénéficié en 2007 donc d'une bourse Égide du ministère de la Coopération pour venir poursuivre mes études doctorales en France. Donc déjà ça, c'est important. Et donc pour moi, l'avenir de la recherche demain, je ne la limite pas qu'au sol hexagonal, mais aussi je la vois plutôt dans le lien qu'il y a entre la France, l'enseignement supérieur français et les universités, par exemple, des pays qui ont été des anciennes colonies françaises. En Afrique, où il y a beaucoup de champs de recherche, il faut dire que avec les programmes que connaissent l'université, les chercheurs, il y en a très peu et de très bien formés. Il y en a donc de moins en moins aussi. Et les quelques-uns qu'on a ont été souvent formés dans le système français. Et donc, c'est très important que cette mobilité-là, cette ouverture-là continue. Voilà.
J'ai fait un cursus donc universitaire en France et puis après, j'ai fait une année Erasmus donc en Angleterre où j'ai pu voir le parallèle finalement entre l'université française et l'université anglaise. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en Angleterre, on a beaucoup plus, en fait, c'est beaucoup plus professionnalisant que ce qu'on peut avoir en France, où ça reste très théorique. Du coup, on a plus une vision professionnalisante et une autonomie, des compétences transversales qu'on ne développe pas spécifiquement à l'université à l'heure actuelle. Et je pense que ça serait une vision en France de mettre en place justement des projets en parallèle aux enseignements théoriques, parce qu'on ne voit pas l'utilité. Finalement, à l'heure actuelle, à l'université, on apprend, mais on ne sait toujours pas à quoi ça va nous servir dans le monde professionnel. Et en plus, ça fait un esprit d'équipe, puisque souvent, on est à plusieurs sur ces projets-là. Et donc voilà, c'était vraiment l'aspect qui manque à l'heure actuelle à l'université.
Pour moi, enfin, l'université de demain, ce sera envisageable d'encadrer plus les élèves, les étudiants.
Voilà comment ces jeunes imaginaient l'université de demain. On va demander aux jeunes autour de la table leur vision à eux de l'université de demain, leurs rêves, leurs souhaits. On commence avec Mélanie, lycéenne, donc pas encore à l'université. Comment vous imaginez l'université de demain ?
J'en ai pas vraiment une idée précise. Déjà l'université d'aujourd'hui, je vois juste ce qu'on me dit, que c'est des amphithéâtres pleins, qu'on a du mal à écouter, tellement il y a du monde.
Donc déjà le premier souhait, ce serait classes ou des groupes suffisamment réduits,
voilà, pour qu'on puisse pouvoir écouter les cours sans avoir des interférences de groupes qui parlent d'autre chose. Donc voilà.
D'accord, Myriam.
Moi, à l'université, je pense que le fait de ne pas connaître les professeurs, que les professeurs ne connaissent pas les élèves, ça n'aide pas beaucoup. Et il y a quand même un minimum de complicité entre le prof et l'élève pour que la curiosité des cours s'installe.
Mmh. Donc une université plus voilà à taille humaine, hein, c'est-à-dire avec des effectifs réduits et puis un vrai rapport avec l'enseignant, c'est-à-dire qu'à l'heure d'Internet, il vous faut encore de la relation humaine. Déborah, comment vous voyez l'université de demain, vous ?
J'ai pas grand-chose à dire. En fait, moi, ce qui m'inquiète par rapport à l'université de demain, ce sont les coûts universitaires, en fait. Je me demande si tout le monde pourra aller à l'université, si tout le monde aura les moyens d'y aller. Mmh. Ouais, c'est tout.
Oui, revient cette question hein, abordée tout à l'heure par François Godel, de l'égalité des chances. C'est quelque chose qui vous semble aux uns et aux autres un problème à ne pas perdre de vue, Déborah ?
Oui, c'est un problème à ne pas perdre de vue parce que, certes, il y a l'épreuve du bac, déjà, qui peut sélectionner déjà un certain nombre de jeunes personnes, mais il y a énormément d'enjeux après le bac, justement, à l'université, et quand on est jeune, on ne comprend pas forcément. On a été enfermé au lycée et on a envie d'un peu plus de liberté, mais on comprend pas forcément l'enjeu que c'est en fait à partir de maintenant que se joue la carrière professionnelle en tant que telle. Je vois certains de mes camarades malheureusement qui ne terminent pas, qui vont pas jusqu'au bout de leur licence et je trouve ça assez dommage parce que ils vont bifurquer et au final ne pas avoir de qualification et être au même stade que quelqu'un qui vient d'avoir son bac là cette année.
Là, c'est un problème d'orientation ou un problème d'égalité des chances que vous pointez ?
Un problème d'orientation, d'égalité des chances.
Vous avez l'impression que c'est justement quand on n'est pas armé pour faire ses choix, ça fait partie de l'égalité. Il y a des gens qui connaissent mieux que d'autres la règle du jeu et des gens qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, perdus, qui errent entre les filières sans trouver leur voie.
Un peu ça, parce que moi, en ce qui me concerne, je pense que quand on s'oriente quelque part, on peut se tromper. On a le droit, évidemment, à l'erreur. Mais qu'il faut pas oublier qu'on vit dans un monde réel et que voilà, il va falloir se trouver un emploi au final. C'est bien de chercher sa voie, sa passion et tout, mais il faut rester aussi dans les aspects concrets. Et parfois, certaines personnes n'ont pas ça.
François Godel, vous vouliez réagir.
En plus de l'aspect qui est que les élèves qui arrivent à l'université sont pas toujours prêts pour le type d'études qu'ils vont avoir, là, le territoire joue encore un rôle important. Je me souviens d'une élève que tu connais, hein, Yaya, qui avait une heure et demie de transport pour aller de Villepinte jusqu'à Jussieu, où elle suivait des études. Elle a failli arrêter dès la première année. On l'a rattrapée, je veux dire. Il a fallu vraiment insister pour qu'elle continue. Et maintenant, elle continue. Elle va faire ingénieur des travaux publics, ce qui, pour une jeune fille, je trouve ça est vraiment super. Et on a plein de problèmes comme ça. On a des élèves qui ont des problèmes terribles aussi parce que ils ou elles doivent travailler pour financer leurs études. Il y a des problèmes de logement énormes. Et tout ça, bien sûr, ça joue beaucoup. En Seine-Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de transport pour aller à l'université Paris 13. Mmh. Paris 13 à Villetaneuse, c'est pas toujours très facilement accessible. Et si en plus on vient de Clichy-sous-Bois, c'est encore pire. C'est plus facile d'aller à Paris, et même pour aller à Paris, ça prend beaucoup de temps.
Mais vous attendez, donc là on voit la série de problèmes que vous pointez très clairement, très concrètement. Est-ce que vous pensez que les assises de l'enseignement et de la recherche peuvent apporter des réponses à ça, ou est-ce que c'est un problème qui de toute façon est récurrent, mais c'est pas avec ces assises qu'on va trouver un début de solution?
Si, je pense que les assises doivent s'intéresser à ce problème et y apporter des réponses. Sans ça, on passe à côté de toute une partie de la population et on en paiera le prix tôt ou tard.
Déborah ?
Je pense aussi qu'il faudrait redorer le blason des universités de proximité, enfin par rapport aux inégalités qu'il y a par rapport aux régions, enfin les gens où le lieu où ils habitent, parce que j'ai vu comme ça des lycéens me dire ah mais moi je vais aller à Paris mais je vais avoir tant de transports parce que mon université à côté je sens pas voilà. Et pourtant c'est les mêmes enseignements qui sont promus à Paris ou bien par exemple en banlieue parisienne, mais eux n'ont plus confiance.
On va terminer avec vous, Jean-Louis Buscaillet. On voit que effectivement il y a une attente, hein. Rien qu'en écoutant ces jeunes, on se rend bien compte qu'ils ont des choses à dire et il y a du débat auquel il faut les faire participer. Aujourd'hui, combien de jeunes participent à ces clubs CNRS Jeunes Citoyens? Est-ce qu'on peut augmenter les effectifs?
Bon, de toute façon, moi je voulais vous dire, le nombre de jeunes, je ne peux pas le donner, puisque le nombre fluctue suivant le nombre de clubs qui existent, qui vivent. Donc on a à peu près aujourd'hui une soixantaine de clubs qui vivent sur le territoire français, mais il ne faut pas oublier qu'on développe aussi une politique au niveau international pour les clubs CNRS jeunes, puisque nous avons des clubs qui vivent très bien en Allemagne, en Belgique, nous avons des partenaires aussi bien au Maroc qu'au Portugal, et nous avons une demande émanant du lycée franco-bolivien de La Paz, donc en Bolivie, qui nous demande de créer un club. Donc voilà, nous, ce que nous essayons, c'est d'essaimer un peu cette philosophie science et citoyen, donc de rapprochement entre les jeunes et le monde de la recherche, ces chercheurs qui semblent parfois inaccessibles, et puis en fin de compte, quand on s'aperçoit que, comme le disait si bien Rémi, quand on croise des grands, on s'aperçoit qu'ils sont humbles et qu'ils répondent aux sollicitations. Qui plus est que ce sont des sollicitations qui viennent de la part de nos jeunes. Donc moi je pense que l'avenir appartient aux jeunes. Nous avons une chance inouïe au CNRS, c'est que la direction générale a bien compris que l'avenir était là. Donc ils souhaitent toujours développer encore plus, je dirais, ce principe, cette philosophie. Donc moi je ne peux que me féliciter que ma direction, elle, tienne compte de la vie de ces jeunes, puisqu'il y a cette table ronde qui est organisée aujourd'hui. Je trouve ça super. Et j'invite tous les chercheurs qui souhaitent nous rejoindre, de nous rejoindre. Ils ont mes coordonnées sur le site du CNRS Sciences et Citoyens. Il n'y a aucun problème. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les acteurs de la culture scientifique, tous les scientifiques qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. Moi, je voudrais les remercier parce que sans eux, je crois que la science n'avancerait pas aussi vite, auprès de cette jeunesse qui est, je le répète, notre avenir.
Voilà. Donc, si vous êtes chercheur et que vous avez envie de participer d'une façon ou d'une autre à ces rencontres avec les jeunes pour parler science et citoyenneté, eh bien, voilà, Jean-Louis Buscaillet vous le dit. Vous allez sur le site dans l'annuaire du CNRS et puis vous cherchez ses coordonnées, vous lui envoyez un mail. Il sera ravi de vous faire participer à cette aventure. Merci à vous six d'avoir participé à cette rencontre. Je rappelle donc vos noms, Rémi, Myriam, Mélanie, Déborah, c'était nos quatre jeunes. François Godel également, merci à vous. Et puis Jean-Louis Buscaillet, merci à vous deux, à vous quatre, 16, 6, je ne sais plus. Allez, on continue la Wiki Radio du CNRS.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.